I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Léon.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Très bien, Nemo. Tout nouvel explorateur doit répondre à une question de science.
Très bien.
Tu viens d'une autre planète, c'est ça? Tu m'apportes un message.
Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils.
Vers l'infini et au-delà!
Oh oui, tout doux Buzz, hein, parce qu'avant de viser l'infini, il faudrait déjà qu'on circule dans la galaxie. Et c'est pas pour cet après-midi, si tu veux mon avis. Nos sondes les plus baroudeuses, les bien nommées Voyageurs 1 et Voyageurs 2, ont à peine mis un doigt de pied à l'extérieur du système solaire. Alors autant commencer petit, on la refait. Scène 1, prise 2, vers l'héliosphère et au-delà. Héliosphère, oui, voilà un terme qu'on n'entend pas tous les matins à la radio. De Mercure à Jupiter, nos planètes baignent toutes dans une bulle de gaz créée par notre Soleil. C'est ça, l'héliosphère. Avec ses 18 milliards de kilomètres de rayon, elle marque la frontière avec le milieu interstellaire, l'espace, le vrai, de Final Frontier que tout le monde connaît dans Star Trek. Vous vous en doutez, l'objectif à atteindre est désormais clair. L'une chinoise, l'autre américaine, deux nouvelles missions ont prévu de franchir la barrière de l'héliosphère. Je vais arrêter là mon introduction et laisser la place à l'expert. Une fois n'est pas coutume, hein, on va visser notre casque à double tour et faire le plein d'oxygène pour retrouver celui qui nous propulsera dans les coulisses de la conquête du milieu interstellaire. Notre réacteur en chef, s'il me permet l'expression, se nomme Franck Daninos et c'est le spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. Bonjour Franck.
Bonjour Romain.
Alors, c'est pas tous les jours que je lis ça dans Science et Avenir parce que le début de ton article ressemble à la quatrième de couverture d'un livre de science-fiction. Tu y parles d'un petit vaisseau à des centaines de milliards de kilomètres de la Terre et qui file surtout à 350 000 km/h. Alors, c'est vrai que les deux projets dont tu vas nous entretenir aujourd'hui ressemblent quand même assez furieusement à de la science-fiction. Est-ce qu'on en est là?
C'est vrai que les distances et les vitesses là, que tu viens... de rappeler semble absolument incroyable, vertigineuse, tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ces projets sont pourtant bien réels. De nombreux scientifiques y travaillent depuis les années 60. C'est techniquement possible et ces missions pourraient bien être lancées dans les toutes prochaines années. L'objectif, atteindre et étudier le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, c'est le milieu qu'on va trouver au-delà du système solaire, de la frontière matérielle du système solaire. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Et c'est en fait un milieu qui entoure toutes les étoiles de la galaxie. Et donc, atteindre et explorer ce milieu, c'est considéré par beaucoup de scientifiques, d'astronomes, comme l'ultime frontière, le plus lointain territoire qu'on peut espérer explorer dans un avenir raisonnable. Au-delà de cet objectif, de cette ultime frontière, bon, ce serait atteindre l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, qui est tout de même à 4 années-lumière de la Terre. Et donc, aucune technologie ne nous permet actuellement de l'atteindre. C'est pour ça que le milieu interstellaire est vraiment considéré comme l'ultime frontière par les astronomes.
Tu parles de frontière ultime. Alors, avant d'en arriver là, est-ce qu'en comparaison, tu peux nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui, qu'il s'agisse de vitesse ou de distance parcourue par l'humanité?
Alors, le record est détenu actuellement par la sonde américaine Voyager 1, qui est toujours en activité, donc qui émet toujours des signaux, donc qui sont captés par la NASA. Il y a une petite équipe là, qui est dédiée encore à cette mission. Elle est partie donc il y a très longtemps, en 1977, de Cap Canaveral, et elle se situe actuellement à 22 milliards de kilomètres de la Terre, et sa vitesse est de 60 000 km/h. Donc c'est l'engin de conception humaine qui est aujourd'hui le plus lointain, et c'est lui aussi qui a été le premier à franchir donc cette fameuse frontière matérielle du système solaire, donc l'héliosphère dont tu parlais tout à l'heure. Et donc elle l'a franchi en 2012. Elle a été d'ailleurs suivie 8 ans plus tard, donc en 2018, par sa jumelle Voyager 2, qui avait été lancée la même année, donc en 1977, mais qui est un petit peu moins rapide. Je crois qu'elle se déplace à peu près à 50 ou 55 000 km/h.
Ce qui est déjà pas mal, hein. On va pas se mentir.
C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin.
Moi, ce que j'ai découvert en lisant ton papier, c'était que notre système solaire ne s'arrêtait pas à l'orbite, en quelque sorte, de sa dernière planète, donc Pluton, mais allait beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, avec un peu plus de mots et sans doute bien mieux que moi, ce qu'il en est vraiment ? Qu'est-ce que c'est vraiment que l'héliosphère ?
Tout d'abord, une petite précision. Donc, tu viens d'évoquer Pluton, qui n'est pas considéré comme une planète depuis 2006. La controverse fait encore rage chez quelques astronomes. Mais effectivement, donc Pluton, c'est une planète naine. Elle est plus lointaine que les 8 planètes du système solaire, les plus lointaines étant Uranus et Neptune. Donc Pluton se situe à 6 milliards de kilomètres du Soleil. Beaucoup, beaucoup plus loin que la Terre, donc juste pour fixer les idées, qui elle n'en est, si je puis dire, qu'à 150 millions de kilomètres. Et donc Pluton 6 milliards de kilomètres, mais les frontières matérielles du système solaire vont bien au-delà encore. 3 fois plus loin que Pluton, environ 18 milliards de kilomètres. C'est ce que d'ailleurs les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont pu justement démontrer en franchissant cette barrière. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que l'héliosphère ? Donc que les sondes voyageurs ont pu franchir. Pour schématiser, on peut dire que l'héliosphère est une gigantesque bulle de gaz ionisée et magnétisée qui est produite par le Soleil lui-même. Chaque seconde, donc notre étoile éjecte 1 million de tonnes de particules dans toutes les directions de l'espace et à des vitesses supersoniques très rapides, donc qui vont s'étendre et se propager de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elles rencontrent un autre milieu, un autre gaz ionisé auquel ils ne se mélangent pas. Donc on a effectivement 2 milieux, donc d'un côté l'héliosphère, qu'on appelle aussi d'ailleurs le vent solaire, et de l'autre, donc ce fameux milieu interstellaire de gaz qui ne peuvent pas se mélanger. Et donc c'est bien au-delà de cette héliosphère, de cette gigantesque bulle, donc, que se trouve le milieu interstellaire, ce que je te disais tout à l'heure, donc ce milieu, ce territoire galactique qui enveloppe toutes les étoiles de la galaxie.
Alors, dans ton article, tu dis que la sonde Voyager 1 et même la 2, hein, je crois, ont déjà franchi en quelque sorte donc l'héliopause, c'est ça, c'est la frontière entre l'héliosphère et le milieu galactique, et qu'elles ont rencontré, alors ça c'est le terme des scientifiques, une autre mixture.
Les sondes Voyager, elles sont parties en 1977, donc elles ont été conçues au cours des années 70, avec évidemment les technologies de l'époque, sur lesquelles on a évidemment beaucoup progressé. Et puis surtout, elles n'ont pas été conçues pour analyser le milieu interstellaire. Évidemment, on pensait qu'en filant dans l'espace, elles pourraient l'atteindre, mais personne n'avait imaginé qu'elles pourraient le franchir et l'étudier. L'objectif des sondes voyageurs, c'était les planètes externes et géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et elles avaient donc des instruments qui étaient dédiés à cet objectif. Quand les voyageurs ont dépassé ces 4 planètes géantes, la NASA s'est dit pourquoi pas les reprogrammer et les envoyer effectivement aux confins du système solaire pour essayer. Il y avait très peu de connaissances sur cette thématique, très peu de recherches même au niveau théorique. Pourquoi pas poursuivre cette mission pour que effectivement ces 2 sondes puissent aller toucher, puissent aller palper pour la première fois donc ce milieu interstellaire. Et donc effectivement elles y sont parvenues, certes avec leurs moyens, leurs technologies qui sont évidemment pas du tout optimales. Cette précision que je voulais rappeler. En tout cas, avec leurs instruments, les scientifiques ont bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une frontière qui était franchie. Parce que toutes les particules du vent solaire, dont je parlais tout à l'heure, des électrons, des noyaux d'hydrogène, d'hélium, etc., on voit subitement, les détecteurs des voyageurs montrent qu'elles disparaissent, en tout cas qu'il y en a quasiment plus, et qu'effectivement, on commence à avoir autre chose, une autre composition, notamment des électrons et des rayons cosmiques de très haute énergie, qui montrent qu'effectivement, on est bel et bien sorti de cette fameuse héliosphère.
La sonde atteindra l'objectif dans 5 secondes.
Mais ce que disaient aussi les scientifiques, c'est que si Voyager 1 et 2 ont dépassé l'héliosphère, elles ne sont pas forcément dans l'espace interstellaire, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être dans une sorte d'entre-deux, c'est ça, hein ?
Tout à fait. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de surprises. Il y avait des prédictions qui étaient faites par les théoriciens, des modèles. Donc, on a vu qu'effectivement, la plupart s'étaient trompés sur la densité du milieu interstellaire, sur la température et tout un tas d'autres paramètres. Mais ce qui était très curieux, c'est qu'effectivement, les sondes, à un moment, on a l'impression qu'elles faisaient marche arrière. C'est-à-dire qu'elles sortaient de l'héliosphère et puis elles mesuraient un autre milieu, puis comme si elle revenait ensuite dans l'héliosphère, qu'elles en ressortaient. Bref, en fait, tout ça a été interprété comme le fait que dans l'héliopause, c'est-à-dire la zone qui sépare l'héliosphère du milieu interstellaire, il y aurait des sortes de poches, de ramifications, des nervures, un peu comme des racines qui s'enfoncent dans le sol et qui se propagent très loin. Et la sonde, en gros, les sondes voyageurs sont encore un peu dans cette zone de transition. Est-ce que les astronomes, la plupart sont convaincus que, en tout cas, ils ne sont pas encore dans le milieu interstellaire profond. Leurs instruments ne peuvent pas encore, du coup, mesurer les paramètres et les spécificités de ce milieu interstellaire où, effectivement, là, il y a encore des mélanges. Pour en être sûr, en fait, il faudrait qu'elles aillent encore plus loin. Le problème, c'est que, donc, il y a deux choses. Non seulement, elles n'ont pas les instruments vraiment adéquats pour analyser ce milieu interstellaire, mais surtout, elles vont bientôt s'éteindre. Elles arrivent à la fin de leur vie, une vie mémorable. Hein. D'ailleurs, la mission voyageur est considérée peut-être comme la mission spatiale la plus fructueuse de toute l'histoire. Elles ont apporté énormément de données, notamment sur le système solaire externe. Mais d'ici 3 ou 5 ans, on estime qu'elles ne pourront plus communiquer avec la Terre parce qu'en fait, leur source d'énergie nucléaire en particulier sera épuisée. La NASA fait tout depuis quelques années pour économiser au maximum cette source d'énergie. Il y a des instruments qui ont été coupés, on a gardé seulement le minimum, mais bon, elles cesseront d'émettre vers 2023 ou 2025, et donc il faudra bien prendre la relève pour aller effectivement dans ce milieu interstellaire profond et avoir des nouvelles connaissances sur ce milieu qui est si important pour les astronomes, d'où effectivement les nouvelles missions là qui sont en train d'être programmées du côté américain et côté chinois.
Oh, c'est parfait, tu me dresses l'introduction parfaite pour me lancer sur la question suivante, mais on va rester quand même d'abord sur cette question d'héliosphère, parce que si je vois vraiment l'exploit, vraiment ce qu'il y a, alors, notamment chez Voyager 1 et 2, l'exploit technique et scientifique qu'il y a à atteindre l'héliopause, et peut-être elle a dépassé, on ne sait jamais, quel est l'intérêt éventuellement scientifique de dépasser l'héliosphère et d'atteindre ce milieu galactique?
Alors, pour revenir peut-être un peu à la science-fiction, qu'on évoquait au début de notre conversation, on pourrait dire tout d'abord que si notre civilisation veut un jour maîtriser le voyage interstellaire, ce qui aujourd'hui est absolument impossible, hors de portée, pour avoir ces nouvelles technologies, il faudra en tout cas avoir une connaissance beaucoup plus fine au niveau théorique, au niveau expérimental, de ce milieu interstellaire, de sa composition, de ses propriétés, etc. Donc, on pourrait imaginer que ça pourrait servir cette cause. Mais au-delà de cette visée futuriste, pour les astronomes, la connaissance du milieu interstellaire revêt une importance considérable. Parce que ce milieu interstellaire joue un rôle fondamental dans le cycle de la matière de la galaxie. Ce milieu interstellaire, il est produit par des étoiles en fin de vie qui ont explosé et dispersé leurs constituants. Et il fournit en fait les conditions, les ingrédients nécessaires à la formation de nouvelles étoiles. Donc pour les astronomes, la connaissance de ce milieu est absolument indispensable pour comprendre les processus de formation des étoiles.
Très clair.
Une fois de plus, les sites imposeront leur loi à la galaxie.
Maintenant, on peut raccrocher les wagons et je vais me ressaisir de la perche que tu me tendais tout à l'heure, puisque tu évoquais le fait qu'il y avait deux missions, une de l'Agence spatiale chinoise et une côté NASA. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement, évidemment, mais les deux projets et leurs philosophies respectives, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux, en dehors, on va dire, de leur ambition.
Oui, de leur ambition et aussi peut-être quand même de leur durée. Avant de rentrer dans le détail de ces deux missions et de présenter leur philosophie, qui effectivement, tu as raison, est très différente, dans tous les cas, ça durera plusieurs décennies, et c'est quand même un point commun. Pour explorer ce territoire galactique, le milieu interstellaire, dans tous les cas, ça prendra beaucoup de temps pour l'atteindre et l'étudier. Probablement plusieurs décennies, 50 ans, 2 générations, donc il faut effectivement beaucoup de persévérance, une volonté à toute épreuve pour pouvoir lancer ce type de mission. Il faut trouver les financements, il faut convaincre, et il faut se dire que dans 25, 50, 80 ans, les sondes qu'on aura envoyées dans les années 2020 ou 2030 intéresseront toujours les générations futures. Pour ces deux projets, la question de la durée se pose très clairement. Pour revenir à chacune des deux missions, la mission chinoise tout d'abord. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de refaire un petit peu ce qu'ont fait les sondes voyageurs, mais avec les technologies des années 2020, avec des technologies de pointe qui pourront effectivement refaire toute cette science et apporter beaucoup plus de précision et d'informations à la fois sur l'héliosphère, mais aussi sur l'héliopause, cette fameuse zone de transition, et commencer après à toucher, à palper donc ce milieu interstellaire Donc ça, c'est l'objectif de la mission chinoise. Et pour ça, donc elle compte envoyer plusieurs sondes à une vitesse à peu près de 100 000 km/h, environ deux fois plus vite que les sondes voyageurs. Le projet américain, lui, là, sa philosophie, elle est simple, c'est sortir le plus rapidement possible de l'héliosphère pour atteindre le milieu interstellaire profond et l'étudier le plus longtemps possible, pendant probablement 50 ans. Donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur des périodes forcément très longues. La sonde devrait filer à 350 000 km/h, 6 à 7 fois plus vite que les sondes voyageurs, et elle devrait parcourir en tout 150 milliards de kilomètres en 50 ans. Donc c'est vraiment des choses vertigineuses qui dépassent l'entendement. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus ambitieux que ça.
D'où l'introduction en forme de récit de science-fiction, quoi. Il y a un point qui est quand même important, c'est que depuis le début, on parle d'héliosphère, alors que finalement, ce n'est pas vraiment une sphère, ou ça ne serait pas une sphère.
Alors effectivement, on n'en sait rien. L'héliosphère, en fait, toute cette bulle de gaz, il faut savoir qu'elle se déplace elle-même dans la galaxie. Elle a une vitesse qui est très importante par rapport au référentiel galactique, qui est de 800 000 km/h. Et en fait, le déplacement de l'héliosphère donc dans la galaxie produit un effet d'aplatissement de la bulle vers l'avant et elle devrait l'étirer vers l'arrière. En fait, on ne sait pas comment. Est-ce que ça ressemble un peu au coma d'une comète avec sa chevelure? Est-ce que ce serait plutôt la forme d'un croissant ou alors d'un ballon qui se dégonfle? Les astronomes ont plusieurs hypothèses, mais aucune ne peut être vérifiée et les modèles ne concordent pas. La seule façon de trancher, c'est de dépasser effectivement l'héliosphère, d'aller dans le milieu interstellaire et de regarder cette bulle depuis l'extérieur. Et c'est vrai que les sondes voyageurs, toutes les deux sont sorties de l'héliosphère par l'avant. Donc voilà, du côté qui est aplati, elles étaient à un endroit quasiment similaire et on ne sait rien des autres directions. Pour les Américains, effectivement, l'objectif, c'est de prendre une autre direction et de sortir à peu près à 90 degrés. Par rapport à l'avant, et donc 90 degrés par rapport aux sondes voyageurs, donc d'explorer un autre côté pour voir effectivement si l'héliosphère pourrait avoir la forme d'un croissant. Les Chinois, c'est encore plus ambitieux. Eux, ils voudraient envoyer deux sondes minimum et peut-être même trois. Une qui irait devant, une autre qui irait derrière et une troisième qui pourrait aller sur le dessus. On aurait ainsi, avec toutes ces missions américaine et chinoise, une photographie en trois dimensions, un peu de la bulle qui protège le système solaire et qui nous protège notamment donc des rayons cosmiques les plus énergétiques qui empêcheraient toute forme de vie sur la Terre s'il n'y avait pas en tout cas cette protection.
T'as vu, maman ? J'ai construit une vraie fusée à partir du prototype en macaroni.
On va revenir sur la partie technique parce que tout à l'heure, tu as parlé de la notion de vitesse qui est quand même super importante, notamment dans le projet américain qui est particulièrement ambitieux de ce côté-là, puisque tu évoquais tout à l'heure une vitesse, c'est ça, hein, je crois, de 6 à 7 fois supérieure à celle de à celle des sondes voyageurs. Bon, comment on fait pour aller 6 ou 7 fois plus vite? Alors effectivement, les projets voyageurs datent des années 70, mais quand même, on parle quand même là d'un facteur assez élevé par rapport à ces projets-là. Comment on maintient des appareils aussi longtemps en activité derrière?
Il faut savoir que par rapport aux sondes voyageurs, autant pour les instruments, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des progrès phénoménaux dans la résolution et le type de données qu'on peut acquérir grâce aux progrès technologiques. Mais en termes de voyage même, il n'y a pas eu de rupture technologique majeure depuis les années 70. Et donc effectivement, on va devoir faire un peu avec les mêmes conditions que voyageurs, mais on va faire autrement. On va utiliser deux sources d'énergie. La première source d'énergie, c'est celle qui va nous permettre de faire fonctionner ces sondes, de les commander à distance, de diriger les antennes, de recevoir des données, de paramétrer les instruments, etc. Et pour ça, effectivement, on ne peut pas utiliser l'énergie du Soleil. Parce que rapidement, quand on arrive au voisinage de Jupiter, Saturne, de toute façon, l'énergie solaire va être beaucoup trop faible pour qu'on puisse l'utiliser pour contrôler la sonde. Alors, a fortiori, si on va sortir des limites du système solaire où les ténèbres et le froid sont absolument extrêmes. Et donc, comment on fait? Pour la source d'énergie, pour contrôler les sondes, on utilise ce qu'on appelle la technologie des générateurs thermiques à radioisotopes. C'est une technologie qui utilise des isotopes radioactifs, comme le plutonium en particulier, pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, seuls les Américains maîtrisent pour le moment cette technologie. Les Européens, on pense qu'ils pourraient la maîtriser dans 6, 7 ou 8 ans. Et les Chinois vont très vite en la matière et d'ici 2 ou 3 ans, ils devraient la maîtriser. Donc, ils équiperont donc leur future sonde interstellaire donc de ces générateurs thermiques radioisotopes. Mais pour aller très vite, c'est pas ça qu'on utilise. C'est le phénomène d'assistance gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un objet, quand il passe voisinage d'un corps massif, en quelque sorte de puiser l'énergie gravitationnelle pour changer sa trajectoire et augmenter la vitesse. Mmh. Alors, le principe est le suivant. Les deux sondes vont aller tout d'abord vers Jupiter, qui est la plus grosse, la planète du système solaire qui est la plus massive, pour effectivement puiser cette énergie gravitationnelle et gagner en vitesse, en accélération. La mission chinoise et américaine prévoit de faire ça, donc ce survol tout à côté de Jupiter. La particularité de la mission américaine, c'est qu'après avoir frôlé Jupiter, elle va se diriger à toute vitesse vers le Soleil et elle va littéralement le frôler. Elle va passer à quelques millions de kilomètres seulement du Soleil, là aussi pour gagner énormément d'énergie, d'accélération et être ensuite catapultée littéralement le plus vite possible en dehors des frontières du système solaire pour atteindre ce fameux milieu interstellaire profond. Alors évidemment, la grosse difficulté quand on passe aussi près du Soleil, ce qu'aucune sonde n'a jamais fait, c'est effectivement de protéger les instruments qui ne grillent pas à proximité d'une source de chaleur si importante. Donc la grande difficulté, ce que les Américains sont en train de travailler en ce moment, c'est sur le bouclier thermique, c'est sur tout le système de protection pour la sonde, probablement quelque chose qui utilisera des composites de carbone et qui prendra énormément de poids dans la sonde elle-même. Ce sera un bouclier qui sera très imposant, qui empêchera effectivement qu'on puisse mettre peut-être tous les instruments qu'on voudrait mettre, mais en tout cas, c'est absolument crucial pour ce projet.
Ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est l'espace.
Et alors, bon, l'ambition, alors même si on est un petit peu dans la SF, hein, tu l'as dit tout à l'heure, l'ambition, elle est quand même de décoller assez vite. Alors peut-être autour de 2030, ou voire éventuellement un peu plus loin, mais la Chine a une ambition qui est largement politique et assumée, c'est franchir l'héliosphère pour le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, qui est en 2049, c'est ça, si je dis pas de bêtises?
Absolument.
Le timing, il est quand même assez serré, non?
Effectivement, le calendrier semble assez serré. Donc la Chine avance cette date d'un départ en 2024 pour pouvoir franchir la limite de l'héliosphère en 2049, là, à l'occasion du centenaire de l'anniversaire que tu viens de rappeler. Avant la pandémie, ils avançaient très bien. Il y a certains chercheurs français qui travaillent avec les Chinois sur ce projet, donc avec qui j'ai pu m'entretenir, donc qui m'expliquaient que le projet allait bon train et qu'ils ont, au bout de quelques mois, dès le printemps, ils ont pu redémarrer assez vite, effectivement, ça semble très serré, mais en tout cas, ils y travaillent d'arrache-pied. Et en fait, si la volonté politique en Chine est là, je veux dire, ils mettront tous les moyens pour les réaliser. Ouais. Pour les Américains, là aussi, en fait, on sait pas trop comment la crise du coronavirus affectera un peu les budgets. On voit bien que, par exemple, il y a beaucoup de grands projets qui ont été reportés. Vous savez, il y a seulement la mission Mars Sample Return, dont la première étape, c'est la mission Mars 2020 qui va envoyer donc le rover Perseverance au courant du mois de juillet. Donc ça, c'est le seul qui a été maintenu. C'était vraiment la priorité pendant la pandémie de la NASA. Les autres grands projets ont été ajournés. Donc là, on verra comment ça pourra affecter effectivement le développement de cette mission interstellaire. Mais en tout cas, la communauté aux États-Unis et dans le monde entier pousse vraiment pour qu'une telle mission soit réalisée. Et donc, effectivement, on aura probablement la réponse en 2021-2022 pour le lancement formel de la mission, avec un lancement qui est prévu pour 2030, si tout se passe bien. Okay.
C'est quand même impressionnant comme ça que de se dire que la communauté scientifique et peut-être même politique internationale est aussi intéressée par ce projet dont ils ne verront peut-être pas les fruits, parce que si on parle d'un décollage en 2030, il faut qu'ensuite qu'elle franchisse l'héliopause pour rentrer dans le milieu galactique. Enfin, en gros, on n'en verra pas le fruit avant peut-être 2050 ou 2060.
C'est vrai, il y a probablement quelque chose de très frustrant, d'autant qu'en fait, les personnes, les chercheurs qui peuvent pousser ce genre d'émission, ce sont des chercheurs qui ont une certaine stature, qui sont déjà bien avancés dans leur carrière et qui ont peut-être 50 ans, 60 ans, et ils savent très bien qu'ils verront pas l'aboutissement de ces efforts. Mais bon, pour eux, c'est une manière de transmettre et de passer un peu le bâton à des nouvelles générations. Effectivement, ça montre aussi une certaine modestie, mais aussi cette soif de la connaissance et une certaine progression. C'est très bien, voilà, cette curiosité qui nous anime, toujours cette envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Et donc, ces scientifiques, même s'ils n'en verront pas le bout, ils pensent que c'est quelque chose de fondamental en termes de connaissances.
Mais côté américain et chinois, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine forme de concurrence entre les projets, ou est-ce qu'on parle plutôt de complémentarité?
Je pense qu'il y a les deux aspects. C'est vrai que On le voit pour la Lune, qui redevient un théâtre de confrontation pour les grandes puissances. Donc la Chine, qui est somme toute une puissance spatiale émergente par rapport aux autres, et aux États-Unis en particulier, mais qui avance très vite, investit un certain nombre de théâtres, comme on avait pu le voir peut-être pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Donc c'est le cas pour la Lune, c'est le cas pour Mars. Et puis là, on vient de parler aussi de toutes ces recherches concernant le milieu interstellaire. Après, la Chine, elle a aussi son calendrier. Ses projets ne sont pas forcément guidés par rapport à ce qui se passe ailleurs. En fait, les objectifs sont fixés, elle avance à son rythme. Et effectivement, c'est très impressionnant, c'est vrai, pour ces différents domaines. Après, au niveau scientifique, hein, comme on l'a évoqué dans notre discussion, c'est deux missions qui sont assez complémentaires, puisqu'elles apporteront des résultats et des connaissances différentes. Les scientifiques tiennent aux deux et croisent vraiment les doigts pour que dans les mois à venir, elles soient décidées, elles soient financées, elles soient finalement lancées, parce que ça fait des décennies que la communauté attend ça. Visiblement, on arrive au bout de quelque chose et cette attente devrait être satisfaite.
Eh ben, écoute, je suis content de te l'entendre dire, parce que à chaque fois qu'on fait un épisode sur l'espace, que ce soit par exemple sur tout ce qui est recherche, à chaque fois on parle de confrontation, de concurrence entre la Chine, les États-Unis. Là, de se dire que effectivement, si les projets sont concurrents, ils sont aussi complémentaires. Eh ben, je trouve que c'est très positif et ça me permet d'arriver vers la conclusion sur une note que j'espère cool et que j'espère que les deux projets porteront leurs fruits. L'épisode s'achève et on ne sait toujours pas ce que les sondes trouveront dans l'espace galactique. Désolé de vous décevoir, mais il va falloir patienter qu'une sonde chinoise, américaine ou autre, sait-on jamais, arrive à bon port. Rendez-vous dans 20, 30, 40 ans, peut-être 50, pour connaître la réponse. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester en 2020, si vous le voulez bien, puisqu'il est temps de remercier celui qui nous a fait déconfiner aux confins du système solaire. Franck, je rappelle que tu es spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. Merci beaucoup.
Merci à toi.
D'ici au prochain vol, n'hésitez pas à accrocher quelques étoiles au palmarès de Science et Avenir sur sa page iTunes. On ne le dira jamais assez, mais vos commentaires sont le carburant qui nous propulsera dans la stratosphère du classement. À dans deux semaines, portez-vous bien et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.